Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Sébastien Chauve. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien, vous êtes apiculteur.
Oui, apiculteur à Valdrome.
Et votre entreprise s'appelle Bise d'abeille.
C'est ça.
Vous êtes ici pour nous annoncer donc un lancement de financement participatif qui est opéré déjà depuis un certain nombre de jours. Et d'ailleurs, il reste 2 semaines environ pour ce financement. Donc, c'est une opération que vous avez intitulée « Sans abeilles » ou « Sans abeilles ». Comme vous le souhaitez. Et c'est la plateforme Mimosa, donc spécialisée dans ce type de financement plutôt voué vers l'agriculture, je pense. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette activité d'apiculteur pour le public? Et puis après, on pourrait parler aussi des complications que vous traversez certainement dues à l'environnement.
Alors moi, je suis apiculteur professionnel depuis 4 ans, ça va être ma 5e année professionnelle. J'ai des ruches depuis une dizaine d'années et ça fait quelques années là où je galère, j'ai pas beaucoup de mortalité d'abeilles et donc je lance ce financement parce que j'ai plus de trésorerie et du coup il faut que j'achète des essaims pour continuer à faire tourner mon exploitation.
Alors, ce financement vous permettrait donc d'acheter environ combien de ruches ou d'essaims?
C'est une centaine de ruches pour remonter mon cheptel, parce que en général, je tourne entre 200 et 250 ruches. Là, en sortie d'hiver, je pense que je serai plus aux alentours de 140-150, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont des essaims, donc qui ne produisent pas de miel tout de suite. Donc voilà, si ça continue comme ça, je produirai plus assez de miel pour subvenir aux charges de l'exploitation, pour investir, et du coup, c'est voué à l'échec.
C'est que ta activité d'apiculteur nécessite combien de ruches actuellement pour votre entreprise?
Alors,
pour qu'elle soit viable.
Moi, il m'en faudrait au moins 200 qui produisent du miel. Donc après, je peux en avoir plus parce qu'il y a des essaims qui grossissent dans l'année mais qui ne produisent pas de miel. Mais il m'en faudrait au moins 200 qui produisent du miel. Après, suivant les années, je vais produire beaucoup de miel ou pas beaucoup avec 200, quoi. En général, 200, je peux aller jusqu'à 5-6 tonnes de miel. Mais en ce moment, je suis plutôt vers les 2 tonnes et ce n'est pas suffisant.
À mon avis, c'est une grosse quantité de miel à produire chaque année quand même. C'est la nécessité du contexte d'apiculture actuelle qui vous oblige à produire autant avec autant de ruches.
Alors non, c'est surtout par rapport à mon exploitation, parce que moi je suis parti de rien. Donc j'ai dû acheter tout le matériel, toutes les ruches, tout ce qu'il faut pour que mon exploitation tourne. Et du coup, j'ai dû emprunter à la banque. Plus toutes les charges qu'on a annuelles sur les ruches, quoi, tout ce qu'il faut acheter pour que les ruches fonctionnent, pour que l'exploitation tourne. Et tout ça, avec 2 tonnes de miel par an, ce n'est pas suffisant pour subvenir aux charges de l'exploitation. Il me faudrait au moins 3 tonnes. Et après, plus pour pouvoir investir, pour réinvestir dans du matériel neuf, pour pouvoir aussi me mécaniser, parce que je fais tout à la main, je suis tout seul, donc je porte beaucoup de charges toute l'année. Donc il y a des grues, il y a des chargeurs en miniature qui existent, donc voilà, tout ça je peux pas investir, et du coup je prends beaucoup de temps, je me fatigue, et du coup il faut absolument que j'arrive à faire un peu plus de miel.
Vous avez ensuite un circuit qui permet d'écouler cette production?
Alors pour l'instant, je suis beaucoup en circuit direct. Je fais donc le marché de Lucandiwa le vendredi, le samedi à 10. Et ensuite, j'ai des magasins aussi, j'ai des biocopes qui vendent mon miel. Alors c'est surtout sur Gap où j'étais avant d'arriver à Valdrome. J'en ai à Sisteron, j'ai des magasins, j'ai la Vie Claire aussi à Die où je mets mon miel depuis peu. Et je cherche maintenant aussi d'autres magasins. Et puis après, bah, j'ai des interventions par-ci par-là de temps en temps, quoi.
Toutes ces ruches que vous avez encore sont disposées sur vos terres ou alors vous aussi vous déposez des ruches chez des particuliers en fonction de la flore environnante?
Alors moi je bouge beaucoup mes ruches, on est qu'on transhume nos ruches, bon, quasiment tous les professionnels font ça pour avoir des miels différents, pour aussi essayer de produire aussi, parce que maintenant si on arrive à produire du miel pendant un mois dans un secteur, c'est quand même assez bien. Donc du coup il faut bouger nos ruches. Donc moi je mets sur des parcelles souvent agricoles, j'ai des parcelles sur l'ONF par exemple qui me loue des parcelles, j'ai des particuliers, j'ai un peu de tout en fait. Après moi je tourne beaucoup mes ruches, je tourne beaucoup sur PACA et puis Drôme, Ardèche et un peu Isère.
Alors, les terres que vous utilisez pour déposer vos ruches, est-ce que vous avez des exigences sur la nature de l'exploitation, si elle est conforme au bio, par exemple ?
Ah ouais, moi, je suis apiculteur bio, mais après, on n'a pas une... on n'est pas restreint à rester que sur des cultures bio, parce que ce serait trop difficile. On n'a pas assez de cultures bio en France pour autant d'apiculteurs. Donc, en fait, moi, j'ai des interdictions. Je n'ai pas le droit d'aller sur du colza, sur le tournesol, par exemple. Et après, j'ai les miels qui sont analysés aussi, certains. Donc, voilà. Moi, ce que je recherche, c'est surtout des terrains qui soient assez loin des grandes cultures, qui soient bien orientés, donc plus généralement au sud, avec de l'eau à proximité, et puis aussi accès facile en 4x4 et tout ça, quoi. Après, bon, c'est sûr que s'il y en a qui veulent me prêter des terrains, je suis ouvert à toute proposition puisque je viens d'arriver dans la région, donc je cherche aussi des terrains pour mettre des ruches. Ouais.
Ça fait une dizaine d'années, hein, je crois, que vous exercez ce métier d'apiculteur. Comment avez-vous vu évoluer ou régresser cette technique agricole?
Alors, moi, ça fait 10 ans que j'ai des ruches, mais ça fait 5 ans que je suis professionnel. Et... Le problème en fait qu'on a dans l'apiculture, c'est surtout les problèmes liés à l'abeille. Donc tout ce qui peut arriver à l'abeille, on parle beaucoup des insecticides, pesticides, mais c'est pas vraiment le gros problème non plus, c'en est un, c'est un gros problème pour la nature. Mais il y a d'autres choses qui se passent dans la ruche, comme le varroa qui est un acarien, qui fait énormément de dégâts à nos ruches. Il y a le frelon asiatique qu'on parle beaucoup, qui est arrivé il y a peu de temps et qui a envahi toute la France. Et après, on a aussi nos campagnes françaises qui s'appauvrissent. Donc on a moins de floraison, on a moins de pollen du coup pour les abeilles, moins de nectar pour faire du miel. Et tout ça engendre beaucoup de choses pour l'abeille et c'est trop de difficultés pour elle. Donc on a énormément de mortalité. Autant avant, il y a 30-40 ans en arrière, on avait 10% de mortalité par an. Maintenant, on est plus alentour de 30%. Et parfois même, chez des années où on monte à 70-80% de perte de cheptel. Et c'est énorme pour l'apiculture. Donc ça devient quand même très compliqué au niveau des mortalités.
Alors face à ces complications, quels sont les recours ou les soutiens que vous pouvez vous-même trouver actuellement ?
On n'a pas beaucoup de recours ou de soutien, quoi. En agriculture, l'apiculture est un peu à part. On a des aides de l'Europe, mais on n'a pas non plus énormément d'aides. Et après, en tout ce qui est mortalité, comme on ne peut pas prouver exactement ce que c'est, on n'a aucune subvention de l'État. Donc on est un peu plus ou moins dans notre coin. C'est pour ça d'ailleurs que je passe par le financement participatif, quoi. Et on a... Après, si l'apiculteur lui-même ne fait pas tout ce qu'il faut correctement tout le temps... on ne peut pas vraiment pallier à toutes ces pertes, quoi. Et on aura toujours des pertes, de toute façon.
Je reviens sur cet insecte, cet acarien.
Le varroa.
Varroa. Voilà. Il est de quelle taille et comment opère-t-il pour...
On l'appelle aussi le pou de l'abeille, en fait, parce que lui, il se fixe sur le thorax de l'abeille pour voyager. Et après, les femelles vont rentrer dans les alvéoles où il y a la reine qui pond des œufs et où les larves abeilles vont se développer. Et du coup, elle pond ses œufs à elle qui vont se nourrir de l'hémolymphe de l'abeille, donc de plus ou moins le sang de l'abeille. Donc du coup, en fait, pendant que la larve d'abeille se développe, le varroa le suce. Et ben, l'abeille, soit elle meurt avant d'arriver à terme, soit elle naît sans les ailes, par exemple, des ailes atrophiées, donc elle ne peut plus voler, soit elle prend des maladies. Donc tout ça, en fait, affaiblit énormément la colonie, et on a moins d'abeilles qui naissent, et du coup, ça affaiblit, ça engendre des maladies, ça engendre moins de productivité, moins de population pour l'été, l'hiver, et du coup, tout ça, ça fait trop de faiblesse pour l'abeille, et du coup, les ruches sont en danger si on ne fait pas quelque chose.
Il y a un moyen curatif quand même pour ce problème ?
Eh bien, malheureusement, on parle des pesticides et insecticides, mais tous les apiculteurs traitent leurs ruches contre ce varroa, contre cet acarien. Et du coup, on a, nous en bio, on a des acides organiques où on traite avec ça, acide formique, acide oxalique. Et après, bah, y a plein d'autres choses aussi. Il y a certains qui utilisent des huiles essentielles. Il y a aussi après des produits chimiques. Donc, il y a des molécules chimiques que les autres apiculteurs mettent dedans. Oui.
Concernant le miel que vous produisez, quelles sont les essences utilisées au niveau des plantes mellifères pour votre miel ?
Alors, moi, ma grosse production, c'est le miel de lavande, miel de montagne, miel de châtaignier. Et après, suivant les années, je peux arriver à faire d'autres miels, comme là, je vais essayer de faire du miel d'acacia, par exemple, cette année. Sur Valdrome, on a la chance d'avoir des lavandes sauvages, la lavande fine, donc j'arrive à faire aussi un miel de lavande fine. Et puis après, un miel de toute fleur. Et suivant, on peut avoir, si j'ai des terrains qui peuvent avoir un miel de chêne aussi, par exemple, c'est certaines années, quoi. C'est à peu près les miels que je fais chaque année.
Le tilleul également ?
Alors, moi, j'en ai un, mais il est mélangé avec le châtaignier parce que c'est des miels qui se chevauchent. Donc, j'ai pas pour l'instant un miel de tilleul pur. Après, j'aimerais bien arriver à trouver dans les baronnies, ouais, pour faire un miel de tilleul pur, ouais.
D'autant qu'il va y avoir la campagne de cueillette pour mai-juin. C'est le moment aussi de voir.
Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais, normalement, c'est fin mai, début juin, ouais, suivant les régions, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Après, suivant où on est. Bah, y en a qui arrivent à faire un bon miel de tilleul, tout pur, mais souvent il est assez coupé, quoi.
Est-ce qu'il existe une corporation ou un petit réseau quand même d'apiculteurs pour l'entraide ?
Moi, j'ai bougé, j'ai déménagé, et puis j'aime bien me faire tout seul, donc c'est vrai que je suis un peu dans mon coin. Après, entre apiculteurs en professionnel, on n'est pas nombreux. Hein. En France, je crois qu'on est à peu près 2000. Donc, c'est pas beaucoup. Après, en amateur, par contre, il y en a énormément. Donc, des fois, il y a des entraides, des choses comme ça. Mais bon, c'est un métier qui est particulier parce qu'on a chacun nos méthodes. Chaque apiculteur va vous expliquer des choses différentes. Donc, on aime bien faire ça dans notre coin. Des fois, on s'entraide sur les transhumances, par exemple, quand on déplace nos ruches. Parce que là, c'est que porter les ruches, mettre sur le véhicule, les emmener, les reposer. Sur les récoltes aussi, quand on récolte le miel, qui est quand même assez prenant et physique. Mais il y en a certaines qui se regroupent, certains apiculteurs qui se regroupent ensemble pour faire certaines tâches. Mais c'est vrai que moi, je ne connais pas trop encore des apiculteurs par là qui seraient susceptibles de faire ça avec moi.
Ouais. Vous travaillez en général avec un peu plus de 200 ruches habituellement. C'est une exploitation sur laquelle vous travaillez seul ? Ou alors il y a la famille un peu qui aide ?
Alors pour le travail sur les ruches, je suis tout seul. C'est ma femme travaille. Et du coup, de temps en temps, j'ai de l'aide pour la mise en pot, par exemple, ou pour l'extraction, où elle vient de temps en temps m'aider. Et aussi les amis, bien sûr. Et de temps en temps, un peu la famille qui vient, quoi. Mais c'est ponctuel, ouais.
Ces activités de mise en pot, est-ce qu'elles répondent aussi à des normes sanitaires par rapport au miel ?
Pour l'instant, on a la chance où on n'a pas obligé d'avoir des normes HACCP comme beaucoup de laboratoires ou de transformation, des choses comme ça. Après, il faut avoir un local quand même sain, parce qu'on ne va pas faire ça dans un truc où il y a de la poussière de partout. Et puis après, bon, le miel est quand même antibactérien, donc il y a très peu de chances que quelque chose se développe. La seule chose qu'on a, nous, c'est qu'on doit avoir des pots qui doivent être propres. Voilà, et puis après, en général, c'est dans des fûts en inox, le miel. Donc on a des doseuses et puis on met la dose qu'il faut dans le pot en verre, on ferme. Donc on n'a pas vraiment plus de normes que ça, quoi.
Voilà, donc ce ne sont pas les normes qui exercent une pression sur l'exploitation non plus actuellement pour le miel.
Non, pas pour la mise en pot, pour la miellerie. Non, il faut quand même un local qui soit à peu près propre. Mais non, on n'a pas vraiment de restrictions par rapport à ça. Non.
La difficulté, en fait, est l'abeille elle-même, puisqu'elle subit les tracas de l'environnement. Est-ce que avec d'autres personnes, même si vous travaillez seul, vous vous échangez sur des manières de voir ou peut-être de réfléchir comment essayer de vous faire remarquer déjà aussi au niveau médiatique, parce que on peut pas dire que les apiculteurs soient vraiment mis en avant sur leurs difficultés.
Non, mais c'est comme je disais précédemment, c'est qu'on est très peu en fait d'apiculteurs professionnels, donc on a un poids professionnel et économique qui est vraiment faible. Donc on ne peut pas dire qu'on soit considéré comme des grands agriculteurs qui produisent des céréales, par exemple, ou des choses comme ça. On n'a pas un poids économique assez énorme. Pour se faire entendre, il y a des manifestations qui se font avec les grands syndicats comme l'UNAF, qui font des choses un peu sur les manifestations sur Paris, des trucs comme ça. Mais on n'est pas vraiment trop entendu. Après, ce qui est bien, c'est qu'on commence à parler quand même de la mortalité des abeilles. On commence à parler des problèmes des insecticides, pesticides, qui touchent pas que les abeilles, mais aussi tout le monde. Donc voilà, après, je pense que c'est une prise de conscience générale qui va faire bouger les choses. On parle beaucoup de l'abeille comme insecte pollinisateur, mais l'abeille en est un. Il y en a énormément d'autres, notamment des papillons qu'on voit plus beaucoup dans nos campagnes. On a plein d'insectes pollinisateurs qui sont touchés autant que l'abeille. Donc l'abeille en elle-même, c'est quelque chose qu'on voit parce que les apiculteurs l'élèvent, mais il y en a énormément d'autres. Donc si l'abeille meurt, il y aura aussi tous les autres insectes qui vont mourir. Donc ce serait qu'on parle vraiment de tous ces insectes-là et qu'on fasse quelque chose pour ça. Donc les insecticides, pesticides, c'est une bonne chose, c'est très 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 bien, mais il y aurait beaucoup d'autres choses aussi à faire. Et puis il faudrait que les gens se mettent à aimer la nature, plus que la voir comme quelque chose de beau, mais vraiment l'aimer, l'apprécier pour la protéger. Ouais.
Est-ce que vous valorisez aussi cette activité auprès des producteurs de fruits, qui profitent aussi des insectes pollinisateurs?
Alors moi je fais pas cette démarche-là parce que j'ai... Des gros producteurs de fruits, malheureusement, mettent beaucoup de produits chimiques. Donc moi, je ne fais pas ça. Par contre, ce qui commence à se faire en France et ce qui se fait beaucoup, beaucoup aux États-Unis, c'est qu'il y a de plus en plus de producteurs de fruits qui appellent des apiculteurs pour mettre des ruches pour polliniser les vergers. Et ça commence à se développer quand même correctement en France, parce qu'ils voient quand même que quand il y a des abeilles autour, eh ben, ils ont une production de fruits qui est quand même meilleure. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là pour le moment, mais peut-être que ça viendra par la suite, ouais.
Vous parlez de 2000 professionnels hein, au niveau de la France et en amateurs beaucoup plus. Vous connaissez à peu près une estimation de producteurs amateurs?
Alors, en amateur, en fait, du coup, c'est de une ruche où on est amateur jusqu'à 199, puisqu'à partir de 200, on est professionnel. Donc, les chiffres, je crois que c'est entre... Alors, ça va être une grosse fourchette, hein, mais je crois que c'est entre 300 000 et 500 000 personnes qui détiennent moins de 200 ruches. Donc, on a contre 2 000 professionnels qui détiennent plus de 200 ruches. Donc, ça peut être de 200 à... Il y en a qui ont bien 800 000 ruches, quoi. Donc, voilà. Après, les amateurs sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux que les professionnels, ouais.
On peut constater aussi l'augmentation du prix du miel hein, depuis quelques années, du fait de ces déboires. Est-ce que malgré cette augmentation, les exploitations et la vôtre, du moins, pourraient s'en sortir? Ou alors, est-ce qu'elles pourraient être encore plus conséquentes?
Elles pourraient être plus conséquentes, ouais. Moi, je restreins et justement, je fais un financement parce que j'arrive pas à subvenir à mes charges. Donc je devrais augmenter le prix de mon miel, mais je suis déjà un peu cher, beaucoup me le disent. Alors je suis en bio, donc on va dire plus ou moins que c'est accepté. Il y en a qui sont beaucoup plus chers que moi en bio. Après, le on produit beaucoup moins de miel depuis pas mal d'années, là où nos productions de miel sont moindres. Donc forcément, si on veut subvenir aux charges de l'exploitation, avec tout ce qui augmente autour, on est obligé d'augmenter notre miel. Moins on fait de miel, et plus le prix du miel va augmenter pour pallier à tout ça. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui va, je pense, ne pas aller en diminuant, parce qu'on n'est pas dans les années fastes au niveau de production de miel. Donc là, il faut aussi que les gens comprennent ça, et que après, c'est comme un peu tout. Quand on a un kilo de miel qui est vraiment très très bas et très peu cher, il faut aussi se poser des questions sur la provenance de miel, sur comment c'est, d'où il vient et qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. On en parle de plus en plus, c'est excellent pour nous. Mais voilà, je pense que de toute façon, on ne va pas pouvoir faire autrement. Tout augmente, et le miel aussi. Maintenant, c'est un produit de luxe. Le miel, c'est très cher. Et pour certains, il n'est pas encore assez cher pour subvenir à tous les besoins de l'exploitation.
Est-ce que vous démarchez, vous, en tant qu'apiculteur, comme d'autres peut-être, auprès des propriétaires terriens, enfin des propriétaires agricoles, sur le fait d'orienter l'agriculture en prenant compte aussi de l'apiculture? Est-ce que...
Moi, je fais beaucoup de ventes directes, donc je parle beaucoup à mes clients. Et dans l'eau, des fois, il y a des gens qui sont agriculteurs ou même juste simples jardiniers de loisirs, quoi. Donc, on échange là-dessus sur le problème de l'abeille, mais pas que, sur les problèmes des produits chimiques et des choses qu'il faudrait faire en plus, quoi. Ça, oui, on échange. Après, le problème, c'est que quand on va parler à un agriculteur qu'on dit conventionnel et qui met des produits, lui, il a sa manière de faire et sa manière de voir. Donc, souvent en contradiction avec la nôtre. Et voilà. Y en a qui ne comprennent pas que, voilà, on casse du sucre sur les produits chimiques comme en ce moment sur le glyphosate, par exemple. Il y en a qui pensent que c'est un très bon produit. Donc, comment on peut, nous, dire aux agriculteurs de ne pas mettre ça, alors que même nous, on met des produits aussi dans nos ruches? Moi, je ne suis pas là pour leur dire « arrêtez, c'est mauvais ». Parce que je ne sais pas déjà ce qui est vraiment mauvais ou ce qui est bon. Moi, pour moi, les produits chimiques, c'est mauvais. Après, je peux en parler, on peut échanger. Qu'il change d'avis par rapport à ce que je lui ai dit, ça serait bien. Que je change d'avis aussi par rapport à ce qu'il m'a dit, ça peut-être. Mais je pense que l'échange est très important. Après, qu'on change d'avis ou pas, je ne sais pas. Mais souvent, ceux avec qui je m'entends bien et que je suis d'accord sont souvent dans la même optique que moi, à faire attention à la nature, à prendre soin de la nature, à aimer la nature. Et puis, et du coup, bah, faire des choses en sorte que la nature soit mieux et se sente mieux. Ouais. Donc, ça va dans le sens des abeilles, des plantes et de tout le reste autour, quoi.
Ja, atmen, doch das beweist nichts. Inmitten meiner Kreise, doch deren Mitte bin ich nicht. Regenslauf wartend appetite. Wenn du kommst, kommst du mit Licht. Du kommst strahlend. Zählst meinen Schatten auf, zählst meine Kerben und schlägst mich auf. Öffnest mein Versteck und liest mich laut, damit auch ich mich hören kann.
Faites les marchés pour vendre votre production. Est-ce que vous faites aussi certaines foires agricoles pour proposer vos produits? Et de là même, est-ce qu'il existe, à votre connaissance, un festival dédié au miel?
Alors, il y a des foires du miel. Alors moi, il y en a une à Marseille qui se fait là depuis pas mal d'années. Moi, ça doit faire 3 ans que je la fais, je crois. Alors, si je me rappelle bien, je crois que c'est le premier dimanche de septembre, donc à Castellane, plein Marseille, où là il y a une foire du miel. Il y en a une à Montsortou, où c'est l'une des plus grosses foires au miel. Moi, j'y suis pas présent là, mais il y a énormément d'apiculteurs qui vont là-bas. Et il commence à en avoir aussi pas mal qui sont ciblés vraiment miel, un peu de partout, qui commencent à se faire, quoi. Après, au niveau des salons d'agriculture, donc là en ce moment, il y a le Salon de l'agriculture de Paris, qui est l'un des plus gros. En général, il y a toujours des représentants, moi qui étais dans les Hautes-Alpes avant, donc eux, ils montent, et il y a des apiculteurs qui vont faire une démonstration avec ce qu'on appelle l'apimobile, avec une ruche et des abeilles à l'intérieur, où ils ouvrent pour faire voir aux gens. Il y a toujours plus ou moins des apiculteurs aussi qui sont là-haut. Il y a le concours de miel, avec les médailles d'or, bronze et enfin argent et bronze. Et après, bah, il y a d'autres salons qu'on peut avoir. Alors, soit des salons bio, parce que bon, moi, je suis producteur de miel bio, donc je vais aussi pas mal dans les salons bio. Il y en a des gros, il y en a des plus petits, il y a un peu de tout, ouais. Après, on commence quand même en France à revenir sur les produits locaux, donc il y a de plus en plus de petites foires aussi qui se montent par rapport à ça, avec des producteurs locaux, pas seulement en miel, hein, mais en bien d'autres choses, et qui sont très bons, ouais.
Je venais sur le sujet des foires justement pour savoir si il existait l'occasion pour les apiculteurs de diagnostiquer leurs difficultés et puis les faire remonter aussi pour remédier.
Bah sur les foires, les salons, entre apiculteurs, on parle toujours d'abeilles forcément, de nos difficultés qu'on a, des solutions qu'on a, de ce que les autres apiculteurs aussi ont trouvé comme solution, des choses comme ça. Après, pour faire remonter ça plus haut, aux grandes instances, on va dire, au ministre de l'Agriculture, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Très, très même compliqué. Là, il y a eu des gros problèmes il y a 2 ans maintenant, ou il y a 1 an, c'était l'hiver dernier, où voilà, les Bretons ont perdu quasiment 80% des ruches. Et du coup, il y a eu des pressions, il y a eu des aides par l'État, mais faut remplir des conditions qui sont assez spécial pour avoir ces aides, donc tout le monde n'a pas le droit. Et c'était la première fois qu'ils faisaient vraiment une grosse aide pour l'apiculture. Les... Puis après, bah, les ministres tournent quand même pas mal. Donc c'est dur d'avoir des choses qui restent sur le long terme pour ces choses-là. Et en général, ils sont plus sur d'autres cultures que sur l'apiculture. Ouais.
Un autre problème aussi, c'est le vol de ruches. C'est un sujet qui se répète. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Et j'ai vu un article cette semaine dans une presse régionale qui notifiait aussi le prix de ces ruches volées et des essaims aussi à la revente. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour éviter ce problème?
Moi, je me suis fait voler des ruches c'est fin d'été, là. L'année dernière, pareil aussi, donc je suis touché. Je pense que très peu d'apiculteurs ne sont plus touchés par ça. Soit ils se sont fait voler des ruches, soit ils connaissent un apiculteur qui s'est fait voler des ruches. Ça devient quand même de plus en plus important. Là, il y en a eu cette semaine, début de semaine, où des gens dans la Drôme se sont fait voler, des amateurs. Donc ça commence tôt. Très très tôt. Donc ça, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce sont des gens qui connaissent l'apiculture, parce qu'on va pas chercher des ruches comme ça sans connaître, qu'ils ont les moyens pour. Donc des fois, c'est des gros voleurs, donc ils ont les poids lourds, les chargeurs, et qui vont très très vite. Des fois, c'est des un peu plus petits, mais ils vont vite aussi. Les choses à faire contre, c'est quand même compliqué. On commence à développer des puces plus ou moins GPS, mais qui ne sont pas non plus très performantes. On a des balances connectées, donc c'est souvent pour voir un peu la production de miel, pour venir voir quand il faut les ruches. Et du coup, ça nous alerte aussi quand il y a un problème. Mais moi qui transhume beaucoup en ce moment, mes ruches, elles sont à 4 heures de route. Si j'ai une alerte maintenant, le temps que j'arrive là-bas, j'ai plus de ruches, quoi. Donc c'est quand même assez compliqué de contrecarrer tout ça. Il faut que les apiculteurs entre eux fassent attention, mais on déplace les ruches la nuit, et la nuit, tout le monde n'est pas au qui-vive pour regarder les ruches. Donc c'est quand même très 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 compliqué de prévenir ces vols. Après, il faudrait aussi avoir les gendarmes et la police qui s'y mettent aussi, parce que nous, quand on fait des déclarations de vol, 2 mois après, comme ils n'ont plus rien qui avance, ils classent le dossier et du coup, y a plus rien qui avance, quoi. Donc nos ruches, on les retrouve jamais. Après, pour le préjudice, moi qui vais acheter des essaims, j'achète des essaims nus sur cadre qui coûtent 125 euros l'essaim. Après, on peut avoir, en général, un essaim, ça coûte de 100 à 200 euros. Si on rajoute la ruche, parce que la boîte, il faut aussi l'acheter, ça monte tout de suite à des sommes à 250, 300, voire des fois 350 euros. Donc, c'est un gros préjudice. Si on nous le vole au printemps, la ruche, elle ne nous fera pas de miel. Donc, on n'aura pas de production de miel aussi. S'il y en a qui volent même les ruches quand il y a du miel dessus, quoi. Sur les ruchers de lavande, par exemple, il y en a qui se font voler les ruches avec le miel. Donc ça, c'est encore un préjudice qui est encore plus énorme. Donc je vois pas la solution contre ça, vraiment, quoi. Après, il faut faire la chasse à ces voleurs, essayer de retrouver les ruches. Il y en a beaucoup qui parlent qu'une fois qu'elles sont volées, elles partent dans d'autres pays. Donc c'est encore plus compliqué. Je vois pas vraiment de solution. Il y a les caméras qu'il faut mettre, c'est des petites choses qui se développent, mais j'ai pas vraiment de solution.
Parce que vos ruches sont disposées parfois dans des territoires loin de toute population.
Oui. Maintenant, je cherche des endroits qui soient pas très très accessibles, qui soient un peu perdus, qui soient le moins voyant possible des routes, des accès aussi, parce que les ruches que je me suis fait voler, on les voyait. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Donc maintenant, je cherche des terrains avec des routes carrossées, des chemins de terre, des endroits perdus, ou même sur des propriétés privées qui soient fermées. Comme ça, déjà, ça réduit les risques. C'est les seules choses qu'on peut vraiment faire, nous, quoi, vraiment. Ou alors, après, il faut trouver des terrains clôturés, fermés, cadenassés. Mais ça devient de plus en plus compliqué de trouver des choses comme ça, quoi. Donc oui, c'est une des solutions à trouver des endroits vraiment perdus pour éviter que les gens viennent facilement.
On va revenir sur le financement participatif sans abeilles, quand il nous reste à peu près
15 jours.
Comment avez-vous rencontré cette plateforme Mimosa qui vous...
En fait, moi, je cherchais à faire un financement participatif, donc j'ai regardé sur Internet quel site il y avait. Donc, on connaît les plus gros, hein, forcément, mais moi, j'ai cherché un truc qui me convenait un peu plus. Donc, je suis tombé sur Mimosa parce que c'est un site qui est basé apparemment principalement sur l'agriculture quand même. Donc, comme moi, je suis apiculteur, c'est quand même un peu mieux. Du coup, je suis parti là-dessus. Enfin, j'ai pas trop cherché. Après, il y en a d'autres, hein, des gros, mais... Mais voilà, ça me convenait un peu plus d'être dans un site qui soit un peu plus basé sur l'agriculture.
Et donc, vous avez opté pour cette méthode et vous avez un enjeu de combien ?
Alors, moi, au total, il me faut... Alors, comme je vais acheter 100 essaims à 125 euros, ça me fait 12 500 à avoir, plus les cadres, des choses comme ça à acheter. J'ai ciblé sur 13 000, sauf que 13 000, c'est énorme. Donc, en fait, on a choisi de faire plusieurs paliers. Donc là, je suis sur 6 000 euros. Si on atteint les 6 000 euros avant la fin, eh ben, on augmentera à 10 000. Apparemment, de ce que j'ai compris, en plus, ils rajouteraient quelques jours pour le financement. Donc, ça me ferait un plus long temps pour récolter de l'argent aussi. Et si on arrive à 10 000, ce qui serait quand même assez extraordinaire, bah, on essaiera d'aller à 13 000. Voilà, le but, c'est 13 000. Mais bon, déjà, si j'arrive à 8 000, ça serait quand même vraiment formidable, parce que ça m'aiderait quand même beaucoup, beaucoup, oui.
Pour les auditeurs, donc pour accéder à votre financement participatif, il y a le site internet Mimosa, et l'intitulé de ce financement est « Sans essaim d'abeilles ».«
Sans essaim d'abeilles pour sauver bise d'abeilles ».
C'est bien de le préciser. Cette passion pour le miel, ça vous est arrivé très jeune, ou vous l'aviez pratiqué, par exemple, enfant, pour aider?
Alors, pas tout à fait, non. Moi, j'ai fait des études de bio, donc oui, j'étais intéressé par les insectes, l'abeille, les fourmis, des choses comme ça. Je trouvais les sociétés qu'ils avaient assez extraordinaires. Et en fait, non, après, je suis allé dans l'animation pour enfants. J'en ai fait pendant beaucoup d'années. Et puis, au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre, bah, j'ai voulu me réorienter. Et ce qui me bottait le plus, c'était la nature, forcément. C'était aussi tous les produits de la ruche. J'adorais le miel et tout ça. Et puis l'abeille qui me fascinait. Donc, j'ai pas cherché bien longtemps. Je suis allé dans l'apiculture. J'avais jamais vraiment pratiqué l'apiculture avant de faire les formations d'apiculteur. Et puis, comme beaucoup d'apiculteurs vous le diront, une fois qu'on ouvre une ruche, c'est soit on part en courant et on n'y revient jamais, soit on y reste et on est pris par cet insecte. C'est un monde qui est quand même relativement fascinant, qui fait énormément de choses, qui bouge tout le temps, qui nous apprend énormément. C'est une société vraiment très très bien fondée, tout est fait pour les autres. L'abeille ne fait rien pour elle-même, tout est fait pour elle. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire, quoi. Donc c'est un virus qu'on chope, c'est quelque chose, dès qu'on met la tête dedans, soit on y retourne, soit on part en courant, il n'y a pas de juste milieu.
Optimiste quant à l'avenir pour votre exploitation ?
Oui.
Vous y croyez,
hein. Sinon, c'est j'arrête. Ça. Alors oui, je ne me vois pas faire autre chose. Alors oui, je suis optimiste, ouais. Carrément. Après, on a beaucoup de difficultés. Je ne suis pas le seul apiculteur à avoir des difficultés, hein. Tous les apiculteurs que vous croisez, si vous parlez avec eux, ils ont des difficultés aussi, hein. On est tous plus ou moins dans le même bateau. Après, oui, je suis optimiste, je suis obligé d'être optimiste. Sinon, on ne fait plus rien déjà. Et puis, c'est aussi mon avenir professionnel, c'est aussi pour ma famille. Donc, je peux pas faire autrement que d'être optimiste. Et puis bon, l'abeille, ça fait des millions d'années qu'elle est sur Terre. Alors là, elle est en danger. Peut-être qu'elle va disparaître, je l'espère pas. Peut-être qu'elle va rebondir et qu'elle va encore nous surprendre une fois encore et qu'elle va faire des choses encore par elle-même. Ça, je peux pas dire, mais il faut être optimiste. On a une belle terre, on a une nature qui est formidable. Il faut qu'on la préserve, il faut qu'on fasse ça. C'est ça qui nous fait vivre. Je peux pas me dire qu'on va tout sacrifier juste pour notre bonne volonté et pour avoir un compte en banque important. C'est pas possible. C'est impossible. On peut pas. La masse humaine, tous les humains ne peuvent pas partir là-dedans, c'est pas possible, je crois pas, non. Donc oui, je suis optimiste, forcé de l'être même.
Là, à part, vous avez entendu parler qu'il y a eu une découverte d'une abeille beaucoup plus grosse que celle d'aujourd'hui, qui est de 6 fois la taille de l'abeille normale. Je ne pense pas que ce soit des abeilles mellifères. Hein.
Je sais pas, j'ai vu la photo vite fait sur Internet, mais j'ai pas lu l'article, c'est rien du tout. Après, des abeilles, il y en a des espèces d'abeilles, il y en a plus de 300. Nous, on en connaît, voilà, on connaît l'abeille mellifère, mais il y en a énormément des abeilles. Donc, on en exploite une. Je pense qu'il y en a bien d'autres aussi, ouais. Alors, celle-ci, par contre, non, je savais pas qu'il y en avait des aussi énormes. Il faudrait que je lise l'article quand même pour voir. Parce que non, je sais pas du tout d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Donc,
Disons qu'elle était déjà connue dans les milieux scientifiques et tout le monde croyait qu'elle avait disparu, mais elle a été retrouvée justement, je crois, du côté de l'Océanie, hein, sur une des îles. Voilà. Et puis, une question naïve et bête peut-être, est-ce qu'il existe d'autres insectes qui pourraient être aussi colonisés pour produire du miel que l'abeille ?
Alors, à ma connaissance, je crois qu'il n'y a que l'abeille qui fait du miel. Par contre, il y a une abeille en Amérique du Sud qui fait du miel aussi, mais pas tout à fait comme l'abeille qu'on connaît. Donc, c'est la Melipona. C'est une abeille aux yeux bleus. C'est l'abeille des Incas. Elle ne pique pas, en plus. Ce serait quand même assez formidable. Mais elle fait des sortes de corolles où elle remplit de miel dedans. Mais après, je crois pas qu'il y ait d'autres insectes qui fassent du moins autant de miel, quoi, parce que l'abeille, elle en fait énormément. Je pense qu'il y en a certains peut-être qui en produisent, mais que pour leur consommation et qui font pas des productions aussi énormes que l'abeille mellifère. Hein. Je pense pas, mais je pourrais pas vous dire plus que ça, non.
Cette activité d'apiculteur occupe toute l'année.
Alors, sur le travail sur les ruches
Au quotidien, pour l'entretien, la récolte, les soins.
Alors, les grosses périodes, quand même, c'est... Voilà, après, il faut voir comment l'hiver tourne, hein, parce que là, il commence à faire chaud, donc on va commencer à s'activer. Mais on va dire que les grosses périodes, ça va être de mi-mars... Jusqu'à octobre. Voilà, ça c'est les grosses périodes avec des pics quand même. Hein. Mai, juin, juillet, c'est quand même les grosses, énormes périodes où là c'est les grosses périodes de production, il faut récolter. Voilà. Et après, toute l'année, on a des choses à faire sur une exploitation apicole. Sur le travail des ruches, par contre, non. L'hiver, les ruches, on les laisse plus ou moins tranquilles. On va voir si tout va bien, s'il n'y en a pas qui sont par terre, s'il n'y en a pas qui ont été ouvertes par des bêtes renversées, des choses comme ça. On va juste faire des visites à partir de novembre jusqu'à là, février. Et puis quand le temps le permet, que le temps repart au beau, au chaud, on repart sur les ruches et on retravaille. Après, on fait des choses différentes suivant les périodes, en fait. Voilà, l'hiver, c'est plus du nettoyage. Et puis, quand les beaux jours arrivent, c'est plus de la production, des essaims, des récoltes, des transhumances. Voilà, c'est à peu près... Mais on est occupé toute l'année, oui.
Eh bien, Sébastien Chauve, je vous remercie d'être venu nous parler donc de 100 essaims d'abeilles pour la bise d'abeilles, basée à Valdrome. Donc, vous êtes là installé depuis 1 an et avec une pratique quand même de 10 ans. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je voulais savoir encore une chose. Vous avez une visibilité sur Internet avec un blog ou une page Internet, par exemple ?
Non, j'ai pas encore fait ça. Non, j'ai rien du tout, même, on peut dire, à part là ce projet de financement. Sinon, après, vous avez mon mail sur ce projet. Après, si vous tapez mes coordonnées ou mon nom, vous verrez le nom de l'exploitation avec les coordonnées. Donc, vous pouvez sans hésiter m'appeler, même venir voir l'exploitation. Il n'y a pas de souci si je suis là. Mais non, j'ai pas tout ça encore. Il va falloir que je m'y mette. Mais j'ai d'autres choses à faire sur les ruches qui me prennent beaucoup de temps et j'ai pas trop le temps à me consacrer à faire pour l'instant un site internet ou quoi. Ça viendra.
Eh bien, Sébastien Chauve, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cet entretien.
Au revoir.
Merci bien, au revoir.